Exactement, une petite demi-heure pour parler d'actualité locale. Bonjour, c'est Jacques pour votre magazine sur CFM Radio. Et nous passons un moment aujourd'hui avec notamment Rémi Kulik, jardinier permaculteur du Jardin des Merveilles de Vaour, pour la suite de nos chroniques sur les méthodes de fertilisation du sol et des plantes. C'est dans Plantes et Histoire de Plantes et nous avons parlé précédemment des fumiers, du compost, des déjections animales entre autres. Et aujourd'hui avec Rémi Kulik, il sera question des déjections humaines. Et oui, c'est possible, mais avec précaution. Et puis dans quelques minutes, je passerai un coup de fil à Benjamin Follin, qui est ânier à Cordes-sur-Ciel avec Vinciane Saubry pour L'âne qui vole, car ce samedi, ils font leur journée porte ouverte et le rendez-vous, c'est dans l'après-midi de 14h à 17h sur le chemin de Saint-Jean, dans le quartier du Barry. C'est à Cordes-sur-Ciel. Mais d'abord, musique maestro avec Falls, c'est le titre And Luna.
CFM Cordes, le mag.
Ce samedi, de 14h à 17h, sur le jardin du Barry à Cordes-sur-Ciel, l'âne qui vole ouvre ses portes au public. L'occasion de présenter leurs activités, mais aussi la philosophie que tout cela génère. Chose que va nous résumer maintenant Benjamin Follin, l'un des âniers de cette structure. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Alors, présente-nous ce que vous faites dans le cadre de l'âne qui vole. Bien.
Alors, les activités de l'âne qui vole, donc c'est une asinerie, c'est-à-dire un troupeau d'ânes qu'on utilise pour proposer de la randonnée. On loue les ânes pour la randonnée, sur des journées ou des demi-journées, ou quelquefois pour des périodes un petit peu plus longues, pour les aventuriers. On fait aussi des animations locales. On a une jolie charrette, par exemple, qu'on a fait au marché de, de producteurs de cordes sur ciel l'année dernière. Et on fait aussi de la médiation animale.
Ah oui,
La médiation
ça j'ai
animale.
vu ça sur votre site internet. C'est plutôt une
Oui.
activité thérapeutique là dans ce cas-là.
C'est thérapeutique ou pour le bien-être en tout cas, où on met en contact les ânes avec des personnes qui ont des difficultés sociales ou qui sont
Mais parfois en souffrance
en
psychique aussi, non? C'est un peu
voilà ou
comme
en
pour les chevaux,
souffrance.
je pense, ouais. Comme avec les
Exactement.
chevaux, ouais.
L'équithérapie est assez connue. Et là, par exemple, on commence un cycle de médiation avec les pattes de corde sur ciel.
Ok, très bien, très
Voilà.
bien. Les oreilles dans les étoiles, c'est votre credo et votre nom, l'âne qui vole, j'ai vu ça, vient d'un proverbe italien qui prend tout son sens avec un peu le sens aussi de votre activité.
Oui, c'est croire à l'âne qui vole. En fait, en italien, en provençal aussi, puisque les deux cultures sont très proches, c'est croire en des choses un peu fantasques, en des choses qui n'existent pas. Et nous, on le prend plutôt justement pour croire en ses rêves et croire en des choses nouvelles aussi qui n'auraient pas existé si on ne les avait pas imaginées.
Oui, et vous non plus, vous n'aurez pas imaginé faire cette activité. C'est vraiment un changement plutôt de secteur pour toi comme pour Vinciane Sobri qui bosse avec toi sur cette structure. Vous êtes tombé dedans complètement par hasard, hein, de travailler avec des ânes.
Pas complètement par hasard, ou pour la nature, pour les animaux et pour la randonnée. Et en fait, il y a quelques années, on est parti plusieurs jours en famille avec des ânes, justement. Et là, ça a été un peu le coup de foudre et la base d'une reconversion professionnelle aussi.
Bon alors,
Vers.
qu'est-ce que ça apporte de travailler avec des ânes, par exemple? Qu'est-ce que tu peux nous dire là? Ça t'apaise, ça fait quoi?
Alors, c'est assez particulier parce que c'est des animaux qui ont une vraie individualité, qui sont très réfléchis, qui ont une intelligence très fine. Et en fait, c'est un peu comme des collègues de travail. C'est-à-dire que chacun a son caractère, chacun a sa façon de faire. Et en même temps, le fait que ce soit des animaux, nous, ça nous oblige à être très direct, à être très sincère quand on travaille avec eux. Et donc, ça oblige à être bien sûr de soi, à être bien. Ils nous le font sentir directement, même si nous, on pense que ça va bien, qu'on est calme. Bah, l'âne, il s'arrête, il ne veut pas travailler avec nous. Et ça, c'est souvent dans un état apte à être bien avec lui, et lui nous le fait sentir.
Il le rend bien, ouais. Donc
Voilà,
vous.
il le rend bien. Mais en même temps, si on est sincère avec eux, très ouvert, on partage une relation assez géniale avec eux et c'est vraiment un grand plaisir d'être avec eux.
Vous en avez six, hein, Alan qui vole. Tu nous les présentes rapidement, une carte d'identité des six ânes que vous avez et peut-être leur caractère.
Alors, je vais essayer de faire ça rapidement. On a deux ânes qu'on a récupérés d'une asinerie où ils étaient déjà en train de travailler. On a Vador et Toto. Vador et Toto, c'est deux mâles castrés qui ont 15 ans, 14 ans maintenant. Et il y en a un petit gris avec la croix de Saint-André noire sur le dos et un autre très grand qui est brun.
Ok.
Voilà. Et les deux sont très câlins, sont parfois assez coquins, mais ils ont beaucoup l'habitude des humains. Ils sont très patients et très ouverts avec les humains. Ensuite, on a deux femelles qui sont assez petites. On a Riette et Archie. Riette, elle est petite avec une grise avec la croix noire aussi de Saint-André, comme les ânes de Provence. Et Archie, elle est brune. Riette est assez jeune, est très dynamique. Donc elle peut paraître assez facile d'accès parce qu'elle, justement, elle est très mignonne, etc. Mais c'est une ânesse qui demande pas mal d'énergie et qui est très sportive. Et Archie, c'est notre doyenne. Elle a une petite vingtaine. Et pour le coup, elle est très sage. Elle est très assurée, elle est jamais surprise par un événement ou par quelque chose de l'extérieur. Et autant elle n'a pas le physique des autres ânes parce qu'elle est un petit peu âgée, mais elle a une assurance qui fait que c'est très agréable de travailler avec elle.
Yes.
Ensuite, on a Diego, qu'on a récupéré plus tard, qui est marron, mais avec la croix de Saint-André aussi. Alors Diego est très très bien parce qu'en fait il est très attentif en fait aux humains. Il est très bien pour partir tout seul parce qu'on a c'est un bon âne pour les groupes débutants justement. On l'a beaucoup fait partir l'année dernière parce qu'en fait il est facile à guider. Il est vraiment à l'écoute et voilà. C'est un
Bon.
bon âne. Et là, on a récupéré un dernier, j'allais dire un petit dernier, mais c'est un grand pour le coup, c'est un grand noir du Berry. Il y a un âne bien charpenté avec la robe très noire. Et il est encore un petit peu stressé par les nouveautés qu'on peut faire avec lui. Donc dès qu'on lui amène quelque chose de nouveau, il est un petit peu sur la défensive.
Donc il faut
Il
prendre
faut
du
qu'on
temps.
l'entraîne encore.
Ouais.
Voilà, mais par contre, c'est un super âne, il est très physique et il est très très gentil, vraiment. Et donc ça va être un très bon élément aussi.
Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité là les balades en âne que vous proposiez le samedi matin, le jour de marché à cordes? Je crois que c'était exclusivement pour les enfants, non?
Alors, c'était pour les enfants, on le refait pas cette année parce qu'en fait la configuration, le terrain où on était en contrebas, la rue du Litou. Et en fait, la configuration fait qu'on n'est pas très connecté avec le marché. En fait, le marché de Cordes-sur-Ciel, comme il est sur cette place de la Bouteillerie, mais qui est barré un peu par les routes principales, nous, on ne peut pas y monter avec les animaux. Et pour les gens, faire cette petite descente qui est courte, mais qui est très raide, c'est pas approprié. C'était un essai un peu
Ouais.
pour l'année dernière. Et comme on n'avait pas forcément de visibilité sur la clientèle qu'on pouvait avoir
Difficile à
l'année
prévoir,
dernière
quoi.
avec voilà la crise sanitaire, tout ça, bon, sans rentrer dans le détail, mais on s'est dit, voilà, on essaye de faire ça, on essaye de trouver des solutions. Et on a quelques personnes qui étaient très très contentes de nous voir, etc., mais on n'a pas eu un public suffisant pour le
Pour maintenir
justifier
ça,
de refaire.
ouais.
Voilà. Et comme là maintenant on est sous la rue du Barry, on est beaucoup plus proche aussi. Donc pour les gens qui visitent Cordes-sur-Ciel, ils peuvent venir nous voir dans la journée aussi, beaucoup plus facilement. Donc on ne va pas refaire un autre lieu le samedi.
En tout cas, pour prendre connaissance de vos activités, rencontrer vos ânes, faire un tour en âne, le rendez-vous c'est de 14h à 17h au jardin du Barry à Cordes-sur-Ciel ce samedi, un temps qui sera suivi d'un apéro partagé. Merci Benjamin de l'Âne qui vole d'avoir été avec nous.
Eh bien, un grand merci et j'espère vous voir nombreux samedi.
CFM Radio, CFM.
Et pour la suite du magazine sur CFM Radio, dans quelques minutes avec nous, Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vahour, qui est avec nous dans Plantes, Histoire de Plantes. Et il sera question de l'utilisation des déjections humaines dans le potager. On va écouter un peu de musique, c'est Sister Rosetta Tharpe, le titre Jericho, avant Plantes, Histoire de Plantes.
She fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. You know the walls come tumbling down. Well, 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 Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your bonds of Gilead, talk about your man of war, but none like good old Joshua way round the walls of Jericho. Well, 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 Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, well, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. You know the walls come tumbling down. Well, 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 good old Jericho. Oh, Jericho, oh, oh, oh. Jericho, round the walls of Jericho. You know Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. The battle of Jericho, and the walls come tumbling down. I'm going, going round the walls of Jericho, going, going round the walls of Jericho, going, going round the walls of Jericho, the walls of Jericho. Well, 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 a good old Jericho, a good old, a Joshua, we are about to fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Well, 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 the walls come tumbling down. tumbling down. Mm-hmm, the world's come tumbling down. Well, 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 the world's come tumbling down. You know, no, the world's come tumbling down. The world's come tumbling down. The world's come tumbling down. The world's come tumbling down.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Eh bien, c'est presque un débat de société, voire philosophique, que l'on va avoir avec Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vahour aujourd'hui. Vous êtes bien à l'écoute de Plantes, Histoire de Plantes sur CFM Radio. Et de plantes, on va en parler indirectement, on va dire, avec Rémi Kulik aujourd'hui. Bonjour Rémi.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, la dernière fois, on a parlé des purins que l'on peut fabriquer pour booster, dynamiser les plantes, booster aussi ou engraisser son sol. Un purin dont tu nous avais donné une recette qui nous a permis de comprendre que le purin normalement ne sent pas, ou en tout cas ne pue pas. Il peut sentir, mais il ne pue pas, et parce qu'on le fait bien souvent pourrir au lieu de le faire fermenter. Et tu me disais en arrivant aujourd'hui qu'en fait le purin, on peut aussi le faire pourrir, mais là c'est pour une autre utilisation.
Ouais, complètement. Ouais, c'est alors il y a une forbe, une plante sauvage qui s'appelle le forbe, qu'on appelle le forbe chasse-top. Et avec cette plante-là, on peut faire un purin qu'on va faire plus que fermenter, donc putréfier vraiment pour qu'il pue. Et on peut utiliser donc ce purin-là, presque pur, dans les trous des taupes, des rats aux pieds, des rongeurs, pour les faire fuir.
Donc ça
le
permet
souci,
de...
ouais. c'est qu'il pue vraiment très, très, très fort et que ça fait parfois fuir le jardinier aussi.
Alors, le sujet du jour peut faire fuir certains jardiniers qui nous écoutent, qui adorent leurs plantes, qui adorent leur potager, mais qui n'imaginent pas utiliser leurs excréments ou leurs urines à des fins d'engraissement ou d'amendement peut-être du potager. Les urines, encore qu'un jardinier, quand il est en train de travailler et qu'il a envie de une petite envie qui vient, bon, ben, il fait pipi dans un coin, ça le gêne moins. Mais les excréments, là, c'est une autre histoire. Et je parlais de débat de société parce que autour de cela, il y a aussi la notion de toilette sèche que je sais qui t'est très chère.
Complètement, ouais, complètement. Moi, je dirais même, c'est le problème, il est à prendre plutôt dans ce sens-là. C'est pas, on va pas, on a besoin de produire un engrais, donc on va récupérer nos urines. Non, c'est nos urines. Et déjà, il faudrait pas les mettre dans de l'eau potable. Nos excréments, pareil. Ça, il y a tout un système qu'on utilise pour nettoyer l'eau, pour avoir de l'eau potable au robinet. Eh ben, on va faire nos besoins dedans. Enfin, je trouve ça complètement illogique. Donc, toilette sèche, déjà, ça évite d'avoir une surproduction d'eau à nettoyer. Et en plus, bah, du coup, ça nous fait garder ces matières nutritives. J'aime bien aussi expliquer dans ce sens-là, c'est toute la nature fonctionne comme ça. Tous les êtres vivants, enfin, tous les animaux produisent des excréments qui sont réutilisés par d'autres êtres vivants et puis ça fait des boucles de matières nutritives. Donc, toutes ces matières nutritives qu'on produit, tous, à 100%, eh bien, plutôt que de les envoyer par le biais des toilettes dans des stations d'épuration qui amènent ça très très loin de chez nous, on va garder proche de nous ces matières qui sont hyper nutritives et en faire quelque chose qui va rendre nos projets, nos lieux, nos jardins beaucoup plus productifs.
Alors l'être humain s'est placé au-dessus de toutes les catégories animales en se disant « moi je serai le seul à faire mes besoins dans de l'eau potable ». Voilà, on n'a pas vu un lion réfléchir sur le sujet, mais les êtres humains, eux, ils ont bien réfléchi et poussé le sujet à fond. Et l'une des raisons qui fait que c'est un thème qui dérange un peu, c'est parce qu'on a l'impression que ben, même si ce sont nos propres excréments, les manipuler, c'est un peu bizarre, quoi. Les gens se disent, ben, non, c'est pas ça, non.
C'est sale, ouais, les excréments, c'est sale.
Ouais, c'est ça.
Oui, alors après, les matières fécales, là, pour parler de différentes déjections, les matières fécales, il y a quand même un risque de parasites. À l'époque du Moyen-Âge, où on n'avait pas encore toute cette propreté, comme, je ne sais pas si on peut dire ça aussi aujourd'hui comme ça, mais en tout cas à l'époque où on n'était pas organisé comme aujourd'hui, ben, il y avait les problèmes de parasites, de maladies, d'épidémies qu'on avait à l'époque, les parasites du genre d'ouf, du foie et compagnie. Et donc si on faisait pas attention aujourd'hui, on pourrait revenir vers ce genre de risque-là, et le risque est réel. Donc il faut quand même l'avoir en tête un petit peu, mais en respectant certaines règles. Et donc là, je peux les donner vite fait, hein, c'est déjà... Nos matières fécales, on va les faire composter. Donc, le compost de toilette sèche, on va le laisser composter un petit peu pour que, avec ce temps, les parasites ne sont plus en vie dedans. Et puis, une autre règle, moi, que je donne, c'est de toute façon, ce compost-là, on va pas l'utiliser pour faire nos plantes potagères qui vont toucher le sol. Donc, on évite de cultiver là-dedans tout ce qui est légumes racines, les radis, les carottes et compagnie. Non. Les légumes qui vont toucher le sol, les melons, les pastèques, les courges, tout ce qui seront posés sur le sol, pareil, on oublie. Par contre, tout ce qui est au-dessus du sol, vu que la tomate, voire la pomme, on peut mettre ça au pied de nos arbres fruitiers, ne va pas toucher même s'il reste un parasite, même si le risque il est de 1%, on ne va pas le prendre ce risque, on ne prend pas de légumes qui ont touché cette matière-là, et donc aucun risque derrière.
Quand tu dis qu'on le fait composter, c'est aussi longtemps qu'un compost, on va dire standard, 6 mois, 4 mois, par là?
Vu que moi je ne suis pas allé dans les recherches scientifiques qu'il y a eu par rapport à ça, et je ne sais pas la durée de survie du parasite, donc je ne pourrais pas te dire un chiffre vérifié, mais ce qui se dit c'est 2, 3, voire 4 ans. Okay. Donc ça veut dire que nos toilettes sèches, on va les vider à un endroit une année, à un autre endroit une autre année, à un autre endroit une autre année, et au bout de 3 ans, ben, là où on l'a vidé la première année, ce compost-là, on peut le récupérer. Et on parlait de compost à chaud dans une précédente chronique. Pourquoi pas ce compost-là, compost de toilettes sèches, pour avoir encore moins de risques, le faire passer dans un compost à chaud pour que la chaleur détruise les germes pathogènes. Mais en passant sur tout ça, et là je te dis, si j'ai pas trop étudié ce truc, tous les recherches scientifiques qu'il y a eu là-dessus, c'est parce que quel que soit le résultat de ces recherches, il y aura toujours un petit pourcentage de risque. Même si le compost il est bien fait, il y aura toujours un petit risque. Donc, pour contourner ce risque-là, ne pas cultiver de légumes qui vont toucher ce compost. Et donc là, le risque il tombe à zéro.
Et le risque, il est toujours présent, parce que dans une précédente chronique aussi, on avait parlé des déjections animales, des différents fumiers. Si nous, on peut avoir des parasites dans nos excréments, les animaux aussi, eux, peuvent l'avoir. Et par contre, les fumiers, ça ne gêne personne d'en épandre dans des champs par-ci, par-là. On se pose un peu moins la question. On se pose un peu plus des questions quand ce sont nos excréments à nous à réutiliser. Et par rapport, sur les excréments, on se doute bien, même si on n'a pas très envie pour certains de les utiliser, on se doute bien que c'est quand même un engrais, parce que si celui des animaux s'en est un, le nôtre aussi, on reste quand même des animaux. Hein. Les urines aussi ont un intérêt.
Complètement. Alors là, urine très riche en azote, donc vraiment un engrais hyper intéressant pour les plantes, mais très riche en phosphore, très riche en potasse, très riche en fer, très riche en bore, en zinc, qu'est-ce que j'ai vu encore? Je l'ai vu il n'y a pas longtemps ça. Mais voilà, très très riche en beaucoup de matières nutritives. Et notamment en agriculture, on va arriver vers un problème bientôt, c'est les mines de, c'est quoi, phosphore ou potasse? Ça y est, j'ai plus mon nom. Mais enfin, il y a des choses qui sont extraites de mines et on arrive au bout de ces mines, bientôt on n'en aura plus. Alors qu'on en a dans nos urines, on en a plein dans nos urines, donc on va pouvoir contourner ce problème encore une fois en réutilisant ce qu'on produit nous-mêmes.
Donc les urines, est-ce que là c'est pareil? Est-ce qu'il y a certaines précautions à prendre ou pas vraiment?
Alors la précaution à prendre, ça va être encore une fois la dilution, ne pas l'utiliser pure sur nos plantes. Donc aller faire pipi au pied d'un arbre de temps en temps, pourquoi pas? Pas faire toujours au pied du même arbre, sinon il va en subir les conséquences et c'est du vécu. Mais voilà, et en dilution, donc les stocker comme on peut. Et ensuite en dilution, 10, allez jusqu'à 15%, mais 10% c'est très bien.
C'est déjà bien, ouais. Je sais pas si ceux que nous écoutons ont vu ce courant qui est né aux États-Unis il y a quelques années. C'était à la mode, je sais plus quand, il y a peut-être 4 ou 5 ans, la mode de boire soi-même ses urines, hein, on les diluait. Et puis il y avait même des stars, des célébrités qui se baladaient avec leurs bouteilles et qui étaient fiers de poser en disant je bois mon urine. Il paraît aussi que ça aurait des vertus. Là, j'utilise vraiment le conditionnel. N'allez pas le faire et dire que c'est Jacques de CFM qui vous a conseillé de faire ça, ni encore moins Rémi en tout cas. Vous pouvez réécouter cette chronique qui parle de la réutilisation des excréments et des urines dans le potager sur cfmradio.fr. Vous faire vous-même votre propre idée et pourquoi pas installer des toilettes sèches chez vous. Le principe, c'est de pouvoir faire vos besoins sans le faire dans de l'eau potable. Mais après, il n'y a pas d'odeur, il y a plein de méthodes qui existent. Là, c'est pareil, vous pouvez vous renseigner. Il y a pas mal de sites qui existent aussi sur le sujet. Merci beaucoup, Rémi, pour tes lumières aujourd'hui.
Avec plaisir.
On te retrouve prochainement pour parler. On va parler de quoi la prochaine fois? On peut parler de quoi la prochaine fois? Tiens, comme ça, un sujet à brûle.
L'été arrive. On va parler d'arrosage, c'est l'été.
Ouais, on parle de ça. Pas. On parle de l'eau, on parle de l'eau. Après avoir parlé de pas faire ses besoins dans de l'eau potable, on parle de l'eau la prochaine fois avec Rémi. C'est la semaine prochaine dans Plantes et Histoires de Plantes. Merci Rémi.
Avec plaisir, à bientôt.
Le Mac du Tarn, c'est tout. Les infos arrivent après le titre Call Black Matty des Black Keys.
Got change. change.